Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque les poissards de l'histoire. Après Guillaume le Gentil et Honoré de Balzac, vous nous brossez, Mathieu, le portrait à 99% vrai d'un malchanceux plus récent. Et surtout, moins malchanceux, car vous êtes en mesure de nous rassurer, dans la vie, Pierre Richard est loin d'être aussi maladroit que ses personnages.
Effectivement, Stéphane, je vous rassure, Pierre Richard est beaucoup moins maladroit que vous. Chez lui, c'est une posture. Il y a dans la vie les maladroits volontaires, comme Pierre Richard, et les maladroits involontaires, comme vous. Nos éditeurs ont pu le constater une fois de plus à l'issue de mon portrait de la tenniswoman Venus Williams, où vous avez déclaré, sans que votre cerveau ait le temps de censurer votre bouche.
Merci Mathieu pour ce récit qui était passionnant et très coloré, parce que vous avez quand même réussi.
Là, on est clairement dans la maladresse involontaire, dans l'amateurisme. Rien à voir avec le professionnalisme d'un Pierre Richard qui, lui, se contente de jouer la Scoumoune. Il n'y a d'ailleurs qu'au cinéma que la Scoumoune peut être drôle. Dans la vie, elle ne l'est pas du tout. Moi, par exemple, je fais partie de ces gens qui ont vraiment la poisse. Il y a des jours où tout s'enchaîne. Ce matin, par exemple, vous vous demandiez peut-être pourquoi j'étais arrivé en retard à la rédaction. Eh bien, à 8h12, Amazon sonne à ma porte, alors que je suis encore en slip. Je veux récupérer le colis, sauf que le type s'est trompé de paillasson. Il l'a posé sur celui de mon voisin. Je m'avance donc trop loin dans le couloir, trop loin en tout cas par rapport au fait que je n'ai pas les clés sur moi. Évidemment, il y a un courant d'air, la porte se claque, je me retrouve en slibard sur le palier avec mon colis. Et le pire étant toujours prévu au scénario quand vous êtes comme moi, un vrai poissard, la porte d'à côté s'ouvre et mon voisin, un type hyper chelou, surgit en peignoir de bain, l'entrouvre avec un air lubrique et me dit
« Le bras de Vénus, vous connaissez ?»
C'est la grosse différence entre Pierre Richard et moi. L'un a réussi à capitaliser sur sa maladresse, l'autre cherche encore un moyen de la monétiser. Notre histoire commence en 1934 à Valenciennes, Stéphane.
Oh là 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 là.
Sous-entendu, ça va être chiant. Non, Valenciennes est une ville qui a beaucoup de charme.
Ah oui, j'aime beaucoup.
Oui, et les années 30 sont éminemment rieuses, si on fait abstraction du nazisme. Pierre Richard de Face vient au monde dans une famille très bourgeoise d'industriels du Nord. Alors oui, donc déjà, première info, à la base, Pierre Richard, c'est son prénom, pas son nom. Oui. Alors, Valenciennes, usine de sidérurgie, enfance sans père qui s'est barré avant sa naissance juste après avoir dilapidé la fortune familiale, élevé seul par sa mère, voilà un pitch susceptible de coller une demi-molle aux frères d'Ardenne. Sauf qu'ici, non, l'action ne se déroule pas dans une petite maison de mineur, mais dans un château au milieu d'un grand parc. Pierre Richard est un rejeton de la haute aristocratie minière et il se sent complètement en décalage avec ce milieu social. Contrairement au petit Stéphane Bern qui ne comprenait pas que ses camarades puissent venir à pied à l'école ou qu'ils puissent avoir à se préparer eux-mêmes leur déjeuner.
C'est pas quelqu'un qui gère ça.
Pierre Richard, lui, vit très mal le fait d'avoir des domestiques. Il y en a un qui est là pour lui demander si monsieur reprendra des frites. Un autre qui l'emmène à l'école en limousine. Pierre est très mal à l'aise avec ça. Bon, pas au point d'aller à l'école à pied, faut quand même pas décoder. Mais conscient d'être privilégié, il demande toujours au chauffeur de le déposé à 500 mètres du collège. Dans cette cage dorée, Pierre Richard rêve de rébellion. Il se souvient, un jour où des invités devaient arriver, avec un bâton, j'avais écrit « Merde !» en énorme sur le terre-plein en gravier rouge devant l'entrée du château. Je ne vous dis pas le scandale dans la famille. Pourquoi ai-je fait ça? J'étais sans doute anard sans le savoir. Un acte destiné à choquer qui n'est pas sans rappeler la fois où David, furieux qu'on ne l'ait pas augmenté, avait disposé ses cacahuètes d'emballage sous les fenêtres du bureau d'Arnaud Lagardère pour dessiner le mot «
Couille !»
Un petit Pierre Richard, lui, a beau dire « merde » à la sidérurgie, il reste tout de même au château où il vit entouré de sa maman et de ses deux grands-pères. Il trouve d'ailleurs en son grand-père maternel, Argimiro Polazzini, la figure masculine qui lui manque tant. Il lui voue une très grande admiration et l'affection est réciproque. Il admire son parcours d'immigré italien, il est marqué par sa prestance, le même physique de colosse, les mêmes colères homériques que Rému, son acteur préféré, explique. Et c'est un peu grâce à lui si Pierre Richard deviendra Pierre Richard. En effet, il raconte que juste avant de mourir, son grand-père a dit à sa fille, donc à la mère de Pierre Richard, « De tous mes petits-fils, Pierre sera le seul qui y arrivera ». Comme il n'a pas précisé à quoi, ni dans quel domaine, ça laissait une belle marge de manœuvre à Pierrot et ça lui a donné une sacrée confiance, une patience aussi. J'ai galéré pendant plusieurs années, mais sans stress, sans angoisse, parce que j'étais porté par cette phrase. Après la guerre, alors que la France est libérée, Pierre Richard, lui, va être enfermé. Tout à l'heure, vous sembliez, Stéphane, insinuer que vivre à Valenciennes était terrible. Vous allez découvrir qu'il y a pire que vivre à Valenciennes, être placé en pension à Valenciennes.
Quelle horreur!
C'est son autre papy, celui qui était moins sympa, qui l'y envoie. Un polytechnicien rigide, directeur d'une aciérie du Nord. J'étais à ses yeux un petit couillon qui ne foutait pas grand-chose. 7 années de pension religieuse, de dortoir glacé, de nourriture infecte. Face à cette réalité, je foutais le camp dans ma tête. Le rêve éveillé était la seule façon de m'en sortir. La pension accentue aussi son côté rebelle, il enchaîne les fugues et se réfugie au cinéma lors de ses escapades. À 16 ans, je vais voir Un fou s'en va en guerre avec Danny Kaye et ça a été une révélation. Dany savait danser, chanter, jouer, faire rire, le tout avec une rapidité époustouflante. C'était ce que je voulais faire. Aussitôt le bac en poche, Pierre Richard débarque à Paris pour retrouver sa mère et s'inscrire, avec sa bénédiction, au cours de théâtre Charles Dullin. C'est un des rares privilèges d'avoir des parents divorcés, dit-il. D'un côté, on m'a dit non, de l'autre, oui, bien sûr, vas-y. Rien que pour emmerder l'autre moitié. Très vite, il décide de ne pas mentionner son nom de face pour ne garder que son prénom, Pierre Richard, afin de ne pas gêner sa famille, où le métier d'acteur reste une forme de déchéance sociale. Pour ne pas trop inquiéter ses proches, il devient d'ailleurs, en parallèle de sa carrière d'acteur, kinésithérapeute, ce qui au début lui rapporte plus que ses cachets d'artiste. Il enchaîne les figurations au théâtre et se produit en parallèle dans les cabarets, aux côtés de Louis Labrocante, enfin Victor Lanoux, avec qui il écrit ses premiers sketchs. Pendant 5 ans, les deux écument les cabarets de la rive gauche et assurent même la première partie de Georges Brassens. Le déclic, le vrai, c'est sa rencontre avec Yves Robert, le réalisateur. Celui qui a réalisé la guerre des boutons le remarque et décèle son potentiel comique. Il lui écrit un premier rôle sur mesure dans sa future comédie Alexandre le Bienheureux. Un jour, il lui tient ses propos décisifs. « Tu n'es pas un comédien, tu n'es pas un acteur, tu es un personnage. Tu n'as pas ta place dans le cinéma français, alors crée-la toi-même. » Fais ton cinéma. La phrase trotte dans la tête du jeune acteur qui n'aura alors de cesse de chercher un sujet de film. Un de ses amis lui conseille de lire Les caractères de La Bruyère. Il y découvre le portrait de Ménalque le Distrait. Tiens, ouais, c'est cool, et si je faisais ça ? S'exclame-t-il comme dans une chronique de Castel-Lopez. L'écriture du scénario commence et un an plus tard, il retrouve Yves Robert. Tu te souviens de ce que tu m'avais dit ? Eh ben voilà un film. Nous sommes en 70, Le Distrait. Est né. C'est le premier film réalisé par Pierre Richard et l'accueil est chaleureux, le public adore ce personnage, silhouette élancée, presque élastique, ses jambes souples comme de la gelée, ses cheveux blonds bouclés, sa maladresse presque poétique. Pierre Richard enchaîne, toujours derrière la caméra, avec Les Malheurs d'Alfred, une nouvelle comédie qui rencontre aussi un succès, et puis Je sais rien mais je dirai tout, comédie clairement inspirée des performances de Stéphane Bern dans le quiz Bern to be Alive. Et puis ce sont les fructueuses retrouvailles avec Yves Robert, avec qui il tourne évidemment Le Grand Blond avec une chaussure noire et sa suite Le Retour du Grand Blond. Francis Weber à l'écriture, Vladimir Cosma à la musique, Pierre Richard à l'écran, c'est le cocktail gagnant des années 70-80. Suivront Le Jouet, La Chèvre, Les Compères ou encore Les Fugitifs aux côtés de Gérard Depardieu. Pierre Richard y incarne toujours soit François Pignon, soit François Perrin. Dans tous les cas, son personnage devenu culte du malchanceux naïf Candide est totalement à côté de la plaque. Personnage qui a influencé toute une génération de maladroits, notamment David Castello-Lopez, prototype du mec sympa qui se fait toujours avoir, comme lors de notre émission du 1er avril où Pouls nous avait fait croire qu'il avait cuisiné du fougou, le poisson. Au poison fatal.
Mais c'est vraiment du thon. Bah ceci, moi je me dis le fougou, ça voilà, c'est le même goût que le thon, puis voilà.
Ah oui.
Mais en fait non.
Ah oui.
Et non, c'est notre petit Pierre Richard à nous. Là où leur chemin diverge, c'est que alors que le succès de David reste relativement confidentiel, Pierre Richard lui devient le comique préféré des Français, une des plus grandes stars du cinéma populaire des années 70. Avec les femmes aussi, c'est une trajectoire différente de celle de David puisqu'il cartonne. Il fait tomber Mireille Darc dans ses bras, puis Annie Dupéré, Marie-Christine Barrault, Jane Birkin ou encore Miu Miu. Il est aux côtés d'Alain Delon et Jean-Paul Belmondo, un sexe symbole des années 70. Si je suis un séducteur, c'est malgré moi, dit-il en souriant. Delon entre dans un salon, il fait bang ! Moi, je suis obligé de faire une chute pour me faire remarquer, c'est une autre technique. Longtemps, la critique le boude un peu, ça le chiffonne. Plus tard, il raconte « Il a fallu que j'attende 40 ans pour que les Inrocks sortent un long papier sur moi. J'étais stupéfait qu'on me reconnaisse pour la première fois mon style de cinéma. 15 jours après, c'était Télérama, puis les cahiers du cinéma. Je me demandais ce qui se passait. Il se passait, mon cher Pierre, ce qui se passe toujours en France. Le succès populaire impose une sorte de délai de prescription morale avant qu'on puisse crier au génie. En 2006, il va chercher son César d'honneur en smoking, mais en basket blanche. L'année dernière, il triomphe dans Monsieur X, un seul en scène très poétique dans lequel il ne dit pas un mot. Aujourd'hui, de télépoche au cahier du cinéma, tout le monde semble d'accord pour considérer Pierre Richard comme notre Buster Keaton, notre Jerry Lewis à nous. Dire qu'il est dans la vie comme le personnage qu'il s'est construit à l'écran serait évidemment un peu trop facile. C'est beaucoup plus complexe que ça. Il est lunaire, c'est vrai. Il est distrait, c'est vrai. Il est rêveur avec ses absences, ses bévues. Mais côté maladresse, en revanche, on repassera. Pour jouer correctement les maladroits au cinéma, il faut être très adroit, parce qu'un maladroit ratera sa maladresse, il aura raté son ratage, explique le maître des faux maladroits. Pas maladroit dans la vie, donc pas malchanceux non plus, hein, on peut pas dire ça. Je n'ai jamais pris mon métier pour un travail, j'ai fait 70 films, je me suis amusé 70 fois, à deux ou trois exceptions près. J'ai eu du bol, conclut Pierre Richard, devenu également viticulteur. Alors puisque nous avons la chance d'avoir autour de cette table un rédacteur en chef de la revue du vin de France, hein, il le dit pas souvent, mais il l'est, Olivier Poulx, je vous pose la question, est-ce qu'en matière de pinard aussi, Pierre Richard a eu du bol, ou bien il y a eu des petites maladresses dans la vinification?
Non, mais il a démarré, si je me souviens bien, en 1986, son projet viticole, c'était vraiment quelque chose qui lui tenait à cœur, c'est maintenant son fils qui s'en occupe. Il est dans les corbières et il faut bien reconnaître que les vins ont beaucoup progressé.
Ah, mais il partait loin, c'est ça que vous voulez dire.
Il faut apprendre, c'est pas un métier qu'on découvre comme ça en deux vinifications ou en deux millésimes. Mais là, aujourd'hui, ça commence à devenir sérieux. Je crois que les projets avancent beaucoup. Et on pourrait dire que par rapport à son ami ou à son compère de
des
film...
Des compères, justement.
Exactement, Gérard Depardieu, il a quand même pris une petite avance, parce que on peut dire que le vin de Pierre Richard est meilleur que celui de son ami Gérard Depardieu.
Ah bah tiens, le vin de Depardieu est dégueulasse.
Bon, disons que...
Il est moins bon, il n'a pas dit dégueulasse.
Il est moins bon, mais, enfin, je ne permettrai pas de dire dégueulasse si Gérard débarquait un jour dans ce studio, je ne voudrais pas avoir à m'expliquer.
On n'a pas les moyens, merci.
Mais bon, il ne fait pas le plus grand vin de Touraine, il faut le reconnaître.
Merci Olivier pour votre expertise, votre franchise, mais je crois que Gérard Depardieu a un souvenir assez différent de la fois où vous aviez goûté son vin ensemble.
Je te signale quand même que tu bandais. Je ne pouvais pas m'avancer, mais il m'a bien semblé sentir une grosseur. C'était chaud. Chaud comme un Jésus qui sort du four.
C'était pas si mauvais ce pinard.
Non, finalement, vu qu'il était bon, maintenant je me souviens
très
bien.
Bon, hein. Vous aviez aimé finalement.
Merci Mathieu, c'était 99% vrai.
Europe 1, historiquement vôtre.